Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le réveil culturel. Tôt à la radio, tous les jours, à 6h du matin ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou le podcast disponible entre autres, en passant par l'application de Radio France. Tous les jeudis dans le réveil culturel, c'est l'actualité musicale. Et aujourd'hui, c'est le blues des Touaregs électrifiés qui est au programme. Un blues électrifié par des guitares rock. Cela fait maintenant 20 ans qu'on croise sur nos routes de festivaliers les musiciens du groupe Tinariwen. Ces nomades du désert qui expriment partout dans le monde et en musique leur soif de liberté et l'aspiration du peuple Touareg au respect et à la dignité. Ouvert aux autres courants musicaux du monde, Tinariwen a sorti cette semaine un nouveau disque, un 9e album enregistré dans le désert de Mauritanie qui leur permet d'ailleurs de faire une 1e tournée mondiale. Les nomades du désert sont actuellement en train de sillonner les États-Unis. Ils reviendront en Europe où ils seront en France durant tout le mois d'octobre et prévu dans plusieurs villes en concert. Mais le public qui vient les acclamer, le fait-il pour leur musique, leur rythme ou pour soutenir leur combat ? Tinariwen ne se considère pas seulement comme un groupe musical, il se veut aussi un mouvement culturel autant qu'une plateforme politique et militante pour reprendre leur définition. Mais que racontent les chansons en tamashek de ce groupe? Et que veut dire Amadjar, le titre de leur dernier album? Rencontre ce matin avec Eyadou Aglesh, c'est le jeune bassiste du groupe multigénérationnel Tinariwen. Et on aura en fin d'émission un éclairage de notre ami et camarade Arnaud Contreras, auteur du livre de référence Sahara Rocks aux éditions de Juillet.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
دنيا واكي سكنا والدغ انت فلتقلا دنيا واكي سكنا والدغ انت فلتقلا
Wartila donc, extrait du 9e et dernier album de Tinariwen. Et là, je suis avec Eyadou Aglesh. Vous êtes bassiste et on vient d'écouter ce morceau qui nous fait voyager, mais de quoi ça parle?
Ce morceau, c'est un morceau qui était joué par Abdallah Gelhousseini, c'est un membre de Tinariwen. Il est en train d'imaginer qu'aujourd'hui, dans le monde, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il faut que les gens essayent de bouger, essayent de ne pas perdre ce qu'il reste un peu d'amitié, un peu d'amour entre les gens et tout ça. Donc là, il voit des choses qui sont en train de disparaître en fait, parce qu'il y a même un petit passage où il dit aujourd'hui il n'y a plus d'amour. Donc ça parle sur des sentiments.
Et cette chanson, elle a une histoire?
Ça, c'est une composition de Abdallah, c'est lui-même qui a composé ça il n'y a pas longtemps.
Et ce disque donc qui sort, qui s'appelle Amadjar, comment on en prononce?
Oui, Amadjar,
ce qui veut dire l'étranger, mais l'étranger bienvenu.
Ça veut dire l'invité.
L'invité, oui, l'invité, c'est mieux.
Oui, c'est mieux, je pense. Parce que tu sais, dans notre langue, avec un seul mot, tu peux imaginer beaucoup de choses. Et ça sera bien que tu penses toujours dans les bons côtés de choses. À Madjar, tu peux le dire l'étranger, mais l'invité. Parce que, de toute façon, chez nous, l'invité, c'est quelqu'un qui te doit beaucoup faire attention et tu dois bien prendre soin de lui. Donc dans notre culture, Amadjar, il a un poids chez nous.
Amadjar, c'est aussi une manière de dire qu'il y a une hospitalité dans le sud.
Oui, c'est ça. On n'oublie jamais ces côtés, parce qu'Amadjar, ça dit tout. L'invité, ça donne la réflexion aux gens, c'est quoi l'invité. C'est-à-dire l'invité, c'est quelqu'un qui est très utile, quoi. Parce qu'il porte aussi sa chance, son caractère et beaucoup de choses.
À Alors cet album a été enregistré dans le, j'allais dire, dans les conditions d'une soirée, dans le sud, d'une soirée, Tina Riwen, puisque vous avez décidé de faire du bivouac, de chanter ensemble, loin des studios. C'est-à-dire c'est le studio qui s'est déplacé à vous et pas le contraire, si j'ai bien compris, Ayadi.
Ouais. Cette idée des studios en brousse, c'est la seule idée qui ça fait plus de 10 ans. On les voit, c'est une bonne idée, ça correspond à ce qu'on fait. Et même notre énergie, elle est efficace que dans le désert. C'est là-bas où on se sent tranquille, on se sent mieux, on se sent avec beaucoup de l'inspiration. Je pense que le studio en ville, c'est aussi un truc particulier. C'est un changement aussi différent par rapport au studio de désert. Et on a essayé cette logique dès le début de carrière. Donc jusqu'à les années 2008 comme ça. Donc à partir de là-bas, on a senti qu'il faut qu'on retourne vers les sources quoi. Comme ça, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire l'album dans le désert après.
Ça a duré combien de temps? C'est-à-dire, c'était un long voyage puisque vous étiez dans un festival au Maroc et que vous aviez décidé de prendre la route jusqu'en Mauritanie, je crois, pour rencontrer d'autres artistes. Et c'est durant cette traversée du désert que vous avez enregistré l'essentiel de votre neuvième album, le neuvième album de Tina Riwen.
Oui, c'était un long voyage en même temps. Et on a quitté le festival de Mohamed Lazlan, qui se retrouve aussi dans le sud, pour aller jusqu'en Mauritanie. On a passé par le Sahara occidental, Dakhla, l'Aïoun, jusqu'à Nouakchott. Et on a sorti la ville de Nouakchott à 30 km. On a choisi un endroit avec des amis là-bas. Donc c'est là-bas où on a dit, ok, on va le faire ici. Et là, on a commencé à enregistrer. Ça nous a pris dans les campements là-bas 20 jours.
À quoi ressemble cet endroit?
C'est un endroit où il y a les mix entre les dunes et la mer, tu vois.
Les dunes et la mer, ouais. Le sable et la mer.
Ouais, ouais. Donc ça, c'est un truc spécial, quoi. C'est une image fou, quoi. Tu vois la mer qui est en train de se frotter avec les dunes. C'est notre imagination, quoi. Donc c'était un bon endroit, c'est très joli.
Cet album a été enregistré la nuit, ce sont des soirées, des sahrat, pour reprendre le terme, pas en tamashek, mais en arabe, pour restituer une tradition, ou c'est parce que la nuit vous inspire le chant, et puis surtout les variations, les improvisations autour des répertoires?
Moi je pense que la nuit, c'est la chose où toutes les choses se reposent dans la nuit. C'est-à-dire même l'entraînement, il dort la nuit, quoi. Et c'est là-bas où il se repose. Donc, dans le désert, avec tout ce calme, même si tu es éveillé, tu travailles, tu te sens posé comme si tu dormais. Parce qu'il y a tellement d'énergie, il y a tellement d'imagination. Il y a les étoiles qui sont pas loin dans ta tête. Ici, tu vois assez clair les étoiles au désert. Il y a beaucoup d'imagination, il y a l'ambiance. Et c'est pas assez calme comme ça, parce que c'est un calme, c'est un silence qui parle en fait. Donc et la musique aussi, c'est pratique de la jouer la nuit. Il fait déjà moins chaud et il y a beaucoup de l'ambiance la nuit.
Quand vous dites le silence n'est pas si silencieux que ça, qu'il faut savoir l'écouter, qu'il y a de l'ambiance, vous voulez parler de quoi au juste?
Je sais pas, l'esprit des déserts, c'est quelque chose qui vit là. Nous, on le sent chaque fois, il est là au désert. C'est un sentiment qui s'harmonie bien avec le corps, quoi, et le cerveau de la personne, je pense, pour bien te sentir toi-même.
Et Yadou Aglesh, vous, quelle est votre histoire avec le groupe Tina Riwen?
Le groupe Tina Riwen a joué dans mon baptême, j'avais 7 jours. Aujourd'hui j'ai 40 ans, donc je pense toute ma vie avec Tina Riwen. Je suis intégré le groupe, là je joue avec le groupe depuis 20 ans. Donc je suis un membre de Tina Riwen, c'est une famille pour moi. Et voilà, je connais que Tina Riwen toute mon carrière et les messages qu'on porte pour notre population.
Mais vous, vous êtes musicien, j'allais dire électrique, puisque vous jouez la basse, c'est pas un instrument de musique traditionnel. Vous faites partie de cette génération de musiciens du désert qui sont venus un peu avec le son rock. C'était évident au début d'imposer la basse à un groupe comme Tina Riwan?
Dès le début, depuis mon enfance, j'ai senti qu'il y a un son qui manque. C'était Sajou Tina Riwan. Il y avait un bassiste, le début du commencement du groupe, mais après il a abandonné vite, quoi. Donc il n'a pas marqué un truc pour qu'on le suive, quoi. Après, ça fait un trou de 10 ans. Moi, j'ai intégré le groupe. C'était, ça joue avec les guitares électriques sans la basse. Et c'est là-bas où j'ai eu l'idée de, il faut que je fasse une basse. Donc j'ai trouvé la basse et ça marche très bien. Et on a commencé comme ça.
Mais vous êtes né où? Vous avez appris où à jouer de la basse, Yadou?
Moi, je suis né au sud de l'Algérie, à Taman Rasset. J'ai appris sur la route, comme je t'ai dit, avec Tina Riwan. Au début, j'ai joué la guitare électrique, mais à chaque fois, dans ma tête, je joue la guitare, la basse sur cette guitare. Donc, jusqu'à le jour où j'ai trouvé une basse, c'est là-bas où je commence à jouer mes propres styles, quoi.
Mais vous avez appris tout seul? Vous aviez un maître ou il fallait faire des cours?
Non, on apprend tout seul. On apprend avec l'oreille seulement. Parce que déjà, une guitare, ça joue. 10 personnes jouent une seule guitare, quoi, là-bas. Donc, pour trouver déjà ton tour, déjà, des fois, tu attends des jours, quoi. Donc, il n'y a pas beaucoup de moyens pour choisir les bons basses ou bien les bons instruments. Mais les gens s'apprendent entre eux dans les soirées comme ça, autour des fées. Donc ça joue et chacun change les idées comme ça.
Tina Riwan, c'est une famille, c'est un groupe d'amis. Ce sont des gens qui se retrouvent autour de la musique et des idées à défendre, des idées politiques ou même philosophiques. Comment définir Tina Riwan, Ayadou?
Moi, je pense que c'est un groupe de la résistance Touareg. Parce que je pense que c'est l'arme des Touareg, c'est les Tina Riwan. Aujourd'hui, tout le monde entier fabrique les armes, bombes atomiques. Moi, je pense que les Touareg, ils ont fabriqué cette machine. Parce qu'on est fiers de notre style et de notre musique. Et on sait très bien qu'on est là. Et on est content d'être là, partager cette musique avec tout le monde entier. Et on est content. Beaucoup de gens, ils se sont surpris pour notre arrivée. Ça me donne le courage et ça me donne le courage de continuer ce que je fais pour mon peuple. Parce qu'à chaque fois que je me voyais à la télé ou bien à la radio, ça donne plus d'informations sur notre culture, sur le peuple Touareg qui est oublié dans les déserts. Donc ça, c'est un grand avantage.
Par exemple, quelles sont les revendications des Touaregs qui passent par les chansons de Tina Riwan?
La première chose, la liberté. La liberté, on la souhaite à toute l'humanité, c'est pas que les Touaregs. Parce que nous sommes, nous, les hommes libres, on est très connus pour ça. Parce qu'on préfère la mort et de ne pas être libre.
Donc d'être libre et de ne pas dépendre de ces tracés de frontières coloniales entre cinq pays.
Les frontières coloniales, tant qu'il n'y a pas de vitres, il n'y a pas de murs, ça va. Tu vois, parce que là, chacun, pour nous, il n'existe pas ces frontières.
Y a pas de L'Algérie, frontières. Le Mali, la Mauritanie,
pas,
tout ça.
Il n'y a pas de frontières. Bon, la Mauritanie peut-être, mais entre l'Algérie et le Mali et le Niger, et normalement même la Libye, normalement tous les Maghrébs, il n'y a pas de frontières. Normalement, toute l'Afrique, il n'y a pas de frontières. Normalement, tout le monde entier, il n'y a pas de frontières. Il faut qu'on dise la vérité. Donc nous, on est comme ça. Donc on ne peut pas nous faire les frontières. Et Tina Riwan parle sur ces trucs et parle sur leurs droits parce qu'on est oublié. Après la colonisation française, ils sont venus, ils nous ont partagé comme une pizza, quoi. Et après, nous, on ne peut pas se laisser faire comme ça. Donc, on est là, on essaie d'expliquer les problèmes. À cause de ça, il y a même des rébellions au Mali. Il y a le mouvement national de la libération de l'Azawad, qu'on avait beaucoup soutenu déjà pour qu'on arrive à un certain accord qui est fiable pour notre communauté. Après, il y a les accords d'Alger, 2015 ou 2016, qui sont alliés. Et là, il y a des accords. On attend toujours en espérant que l'État va changer les choses pour avancer, pour travailler ensemble et pour essayer d'avancer chacun de son côté.
Ce que vous revendiquez au nom de Tinariwen, c'est la liberté de circuler et c'est aussi affirmer l'identité et la culture Touareg.
Bien sûr, parce que la culture Touareg, c'est une culture très riche, très ancienne. Et on a aussi un problème politique aussi qui est là. On n'a jamais essayé de les cacher avec les gouvernements maliens. Tu vois, nous, on n'accepte pas les frontières, on n'accepte pas la colonisation. On ne va jamais l'accepter. C'est pour ça qu'il y a des rébellions, même les années 60, après la France, 63. Donc jusqu'à aujourd'hui, ça continue, la lutte continue dans l'esprit de cette liberté, de souhaiter le bonheur à tout le monde. C'est pas que de faire la guerre, c'est parler et c'est comprendre, chacun comprendre qu'est-ce qu'il doit à l'autre.
Ce combat pour la liberté de circuler dans son propre territoire, dans sa propre géographie, de parler de sa culture, d'assumer sa culture, de la faire connaître, il a été un peu brouillé par l'arrivée des islamistes dans cette région. Qu'en est-il aujourd'hui à Yédou?
Les islamistes, ils sont arrivés il y a même pas 5 ans. Nous, on a vu cette situation il y a 55 ans. Tout ça, c'est des problèmes qui augmentent. Nous, on essaye de... même les arrivées des islamistes, ça, on sait que c'est des stratégies internationales, ça. Toujours, il y a des gens derrière tout ça. Notre cause, elle est là. On sait qu'il y aura une vague des islamistes, il y aura une vague... Il y avait même des vagues, avant les vagues des Français, il y a des vagues des Maliens, maintenant des vagues des islamistes, et il y aura une autre peut-être vague, après il y aura peut-être la paix. On ne sait pas. Mais on ne baisse pas les bras, notre combat continue pour... notre liberté et libérer nos enfants et nos familles qui sont oubliées dans les déserts et d'avoir une bonne éducation, d'avoir des moyens de faire des bons... d'aller à l'hôpital, il n'y a même pas des hôpitaux, il n'y a rien. Donc tout ça, on a une grande responsabilité à gérer. Donc on n'est pas pressé parce qu'il y a beaucoup de travail.
Vos propos sont des propos plutôt militants, même s'ils sont poétiques, ils sont pour l'émancipation du peuple Touareg. Comment vous réagissez, vous, Yadou, entre ceux qui viennent vous écouter, qui aiment votre musique, qui dansent sur vos musiques, sans comprendre ce que vous voulez dire?
Des fois, on dit des choses et qu'on les lit même sur le public. On sent que le public, s'il comprend ce qu'on dit, il doit dire oui, vous avez raison, parce qu'on sent la même chose. Et ça c'est une connexion.
Mais peut-être que les gens ne comprennent pas votre langue, le tamashek.
C'est une connexion naturelle, quoi.
Qui passe par la musique.
Voilà, entre l'artiste et son public, à travers la musique.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
قال دار هنا تقال دويك تاكدو لابدي دوتي ستا شجر هستادوي
تقال دارين تقال دويك تاكدو لابدي دوتي ستا شجر هستادوي.
Et on retrouve l'ami Arnaud Contreras. Bonjour Arnaud.
Bonjour Tofi.
Alors, vous êtes spécialiste des musiques du Sahara, des musiques modernes du Sahara, auteur d'un livre de référence édité en 2015 aux éditions Juillet, Sahara Rocks. Et vous connaissez, bien sûr, Tinariwen. Tinariwen, d'ailleurs, ça veut dire désert en tamashek.
Les déserts
en tamashek. J'avais oublié de le préciser. Vous venez d'entendre Yadou Aglesh quand je lui posais la question, est-ce que vos combats qui passent par les textes de vos chansons sont perçus comme des messages politiques par ce public de plus en plus nombreux qui vient vous acclamer aux États-Unis où ils sont en tournée, ou même en France où ils sont de plus en plus aimés et ils seront d'ailleurs en tournée tout le mois d'octobre. Est-ce qu'ils comprennent ou est-ce que tout le monde est un peu lost in translation, qu'on vient les voir beaucoup plus pour les rythmes que pour le message?
C'est toujours très étonnant de voir en concert en Europe ou aux États-Unis les Tina Heywan et voir ce public qui danse sur des chansons de rébellion ou des chansons assez dures, des chansons qui peuvent être assez tristes, et de les voir s'éclater complètement devant la scène. Alors qu'au Sahara, ces chansons participent à ce que Tina Heywan appelle la conscientisation, la tanakra, l'élèvement par la parole, la défense de la langue, tamashek aussi, la langue des Touaregs. Donc il y a deux perceptions complètement différentes de la musique, et en parlant avec les Tina Heywan, on voit qu'ils composent d'abord de la musique pour leur communauté, et si cette musique voyage, tant mieux. Si leur message voyage, tant mieux. Mais je crois que le public en Europe, aux États-Unis, au Japon vient d'abord écouter de la musique.
Même si, comme dirait Ayadou Aglej, qui est plutôt optimiste, à force d'écouter la musique de Tina Heywan, on finit par s'intéresser au groupe et à leur discours et à leur message.
Alors on écoute leur discours, on perçoit surtout la bonne nouvelle qui vient du Sahara et du Sahel, ce qui n'est pas si fréquent. Chaque sortie d'un album d'un artiste saharien, que ce soit Tina Heywan, Bambino, Tammy Cress, les différents groupes, c'est une bonne nouvelle qui vient du Sahara et du Sahel. C'est aussi une manière de s'informer sur ce qui se passe au Sahara et au Sahel de manière différente, avec une source locale qui ne soit pas une source qui provienne d'une ONG, d'un grand reporter, de quelqu'un de passage.
Alors les gens qui veulent trouver des critiques à l'encontre de Tina Heywan, c'est bien sûr la production de leur disque, en disant effectivement ils font leur musique, mais cette musique, elle est produite par des producteurs européens avec des guests venus du monde entier. Qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud Contreras?
Alors la bonne nouvelle du mois de septembre, c'est qu'il y a un studio qui est en train de s'installer dans la région de Tombouctou, au nord du Mali. Donc ça, c'est déjà la belle nouvelle. Donc il va peut-être y avoir des évolutions. Après, les critiques de diffusion, dans les années 70 et 80, les albums africains étaient principalement produits à Abidjan ou dans différentes capitales ou au Mali, à Bamako. Aujourd'hui, il est plus facile de produire un album en Europe ou aux États-Unis, notamment pour faire voyager, pour des questions de visa, qui est une question centrale pour les musiciens africains. Et sur cet album, c'est la belle surprise, parce que la production occidentale est quelque peu gommée.
C'est pas formaté, quoi, pour les radios occidentales.
Quand même formaté. C'est des chansons qui font 2 minutes 30 ou 3 minutes 30, alors que quand on reçoit une chanson d'un groupe Touareg ou d'un groupe Maure ou quel que soit le groupe saharien, c'est des chansons qui font 10 à 15 minutes où tout le monde participe. Donc il y a quand même un formatage industriel, mais qui est normal par rapport aux standards actuels de la radio, des médias occidentaux.
En quoi ce 9e album de Tina Heywan est-il différent de leur précédent disque, Arnaud Contreras?
C'est un disque plus nomade, on entend plus de son. Je pense qu'il y a eu des influences de la part... Enfin, les producteurs ont écouté certaines influences, sur ce qu'on appelle le field recording, entendre des conversations, entendre des bruits plus naturels, entendre des sons de Tina Heywan, qui soient des sons de vie. Donc ça apporte énormément au disque. La différence, c'est qu'il y a moins de grosses guitares comme il y a pu en avoir. C'était un choix artistique de la part du producteur sur l'un des précédents albums, et c'était un choix vraiment assumé. Là, on est plus dans un album, je dirais, de terrain, un album field recording qui ressemble pas encore complètement à ce qu'est l'ambiance autour d'un feu avec des femmes qui chantent, avec chaque personne qui apporte quelque chose, soit pour manger, soit pour jouer autour du feu. Donc on s'approche de ça. On n'est pas non plus sur un album. Alors il y avait pas mal de critiques sur un des précédents albums de Tina Heywan en disant ouais, c'est un peu bobo sur la dune, voilà, on va dans le sud du Maroc, on s'enregistre de la musique au pied d'une dune.
Non, et là, on invite Rudolf Berger et d'autres musiciens célèbres.
Mais ça pourquoi
pour venir.
Pas oui, ça mais pourquoi, oui,
pourquoi pas parce qu'ils ont toujours été ouverts aux autres.
Ils ont toujours été ouverts, à commencer par le groupe Lojo, à commencer par les autres musiciens qu'ils rencontrent en festival ou simplement lors de tournées en Bretagne, au Pays Basque, au fin fond du Texas.
D'autant plus que, pour être honnête, c'est-à-dire ils invitent ces musiciens occidentaux connus, mais ils invitent aussi d'autres vedettes du Mali, du Niger, d'Algérie, qui sont nettement moins connues, mais qui sont très importants pour le groupe Tina Heywan.
Et dont Noura Mounsey Mali, qui est vraiment la jeune, on va dire griotte, parce que c'est comme ça qu'on les appelle en Mauritanie, donc une femme qui est une chanteuse avec son mari. Ils les invitent, qui apporte une dynamique notamment musicale, d'un style qui est pas très loin de ce qu'on appelle le style Jaguar, et qui enrichit énormément cet album. Donc cet album est très beau. Moi, je le trouve vraiment, à titre personnel, très beau. Je l'attendais un petit peu, cet album, où on entend un petit peu moins la production. Tant mieux s'il y a des invités, et j'espère qu'il y aura de plus en plus d'invités.
Est-ce que vous avez l'impression, Arnaud Contreras, que c'est un album plus mystique, plus apaisé, qu'une bonne fois pour toutes, ils ont laissé tomber la Kalachnikov pour la guitare, le groupe et les musiciens de Tina Heywan, groupe donc qui est né avec une contestation politique, hein.
Alors, il y avait une contestation politique, mais comme le dit le lion, l'un des chanteurs et danseurs de Tina Riwan, moi, j'ai pas changé la Kalachnikov pour la guitare. J'avais une truelle à ciment et je me suis mis à jouer la guitare. Donc, tous n'étaient pas combattants. Déjà, pour un petit peu écorner le mythe, Tina Riwan. Mais leur défense, leur combat premier, c'est la langue tamashek, c'est le rassemblement autour des valeurs sahariennes et pas uniquement autour des valeurs touareg. Tina Riwan, aujourd'hui, dépasse la communauté touareg au Sahara. Il réunit, il fédère tous les jeunes et enfin différentes générations au Sahara. Et c'est quelque chose de très important.
Ça reste le groupe phare de cette scène ?
Ça reste le groupe emblématique, ça reste le groupe référent. Et vous verrez que derrière cet album, à la suite de cet album de Tina Riwan, il y aura d'autres albums qui ressembleront à cet album plus field recording de Tina Riwan. Et c'est une bonne nouvelle.
Sahara Rocks, votre livre, Arnaud Contreras, on peut toujours le trouver dans les bonnes librairies. Il raconte justement l'épopée de cette scène musicale, c'est aux éditions de Juillet. Merci beaucoup d'être passé ce matin, de nous éclairer.
Merci Taufik.
I'm gonna make it.